Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Aujourd'hui, pour l'édition mercredi le 31 juillet 2024, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, un programme de l'entretien spécial avec l'ambassadeur de Suisse en Indonésie, son Excellence M. Olivier Zender et notre collègue Audrey. L'entretien s'agit de coopération bilatérale suisse-indonésienne et la journée spéciale de la Suisse le 1er août 2024. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditrices et auditeurs, bonsoir. Voici La Voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec moi, Audrey. Il y a quelques événements informés, entre autres. Armée de l'air indonésienne reçoit une visite d'État d'Athènes, Brunei Darussalam. Indonésie collabore avec les RIA pour approfondir les études d'adhésion à l'OCDE afin de développer les exportations. Le président signe le règlement gouvernemental concernant l'interdiction de la vente au détail de cigarettes. Nouvelle-Zélande est un partenaire important de l'Indonésie dans le Pacifique. Produits de la pêche indonésiens exportés vers 118 pays. PLN EPI prévoit un approvisionnement de 300 tonnes de biomasse par an depuis Gunung Kidul. Le ministère des Affaires étrangères garantit la sécurité des citoyens indonésiens au Liban dans le conflit entre Israël et Hezbollah. Pour changer tard, voici la nouvelle en complet. La force aérienne nationale a reçu la visite de l'attaché d'État de Brunei Darussalam, Aidi Mashafri, au quartier général de Cilangkap, Jakarta Oriental, dans un communiqué de presse cité par Antara mardi 30 juillet. Il a été expliqué que la réunion était liée au remplacement de l'attaché de défense du Brunei en Indonésie, d'Aidi Mashafri au commandant Mohamed Shahmun Azimin. Au cours de la réunion, Aidi Mashafri a remercié l'armée de l'air indonésienne d'avoir travaillé avec lui pendant son service en Indonésie. En plus de dire adieu au rang de l'armée de l'air indonésienne, Aidi a également présenté le nouveau responsable qui le remplacerait au poste d'attaché de défense en Indonésie, l'officier adjoint du renseignement KSAU et le premier maréchal Jumarto. Lors de la réunion, on espérait que la présence du nouvel Athènes nous pourrait prolonger les bonnes relations bilatérales et militaires entre l'Indonésie et le Brunei Darussalam. Le ministère de coordination des affaires économiques collabore avec l'Institut de recherche économique pour l'ASEAN et l'Asie de l'Est, ERIA, pour approfondir les études sur le processus d'adhésion à l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, et à élargir le marché d'exportation de l'Indonésie. ERIA est un groupe de réflexion qui se concentre sur les études de recherche et les recommandations politiques pour les régions de l'ASEAN et de l'Asie de l'Est. Erlangga Hartanto du bureau du ministère de coordination de l'économie à Jakarta a expliqué mardi 30 juillet que la signature du protocole d'accord prévoyait diverses collaborations, dont premièrement des études conjointes sur l'adhésion de l'Indonésie à l'adhésion à l'OCDE et l'accord de partenariat transpacifique global et progressiste, CPTPP. Deuxièmement, la coopération pour la création du centre zéro émission de l'ASEAN qui sera inauguré fin août 2024. Le président Joko Widodo a signé le règlement gouvernemental numéro 28 de 2024 concernant la santé qui réglemente l'interdiction de la vente au détail des produits du tabac ou cigarettes en unité par stick. L'exception des cigares ou des cigarettes électroniques. Cette disposition est énoncée à l'article 4.3.4 paragraphe 1.c du règlement gouvernemental, comme dans la copie du règlement gouvernemental vu sur la page jdih.setnec.ile. Mardi 30 juillet réglemente également l'interdiction, à savoir la vente des produits du tabac et de cigarettes électroniques au moyen de machines en libre service à toute personne de moins de 21 ans et aux femmes enceintes, en plaçant les produits du tabac et les cigarettes électroniques aux abords des entrées et sorties ou des lieux fréquemment fréquentés, dans un rayon de 300 mètres des unités éducatives et des aires de jeux pour enfants, ainsi que de l'utilisation de services de sites web ou d'applications électroniques commerciales et de médias sociaux. Cependant, à l'article 4.3.4 paragraphe 2, il est expliqué que les ventes utilisant des services de sites web ou des applications électroniques commerciales sont autorisées s'il y a une vérification de l'âge. La ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Ratno Marsudi, a souligné que la Nouvelle-Zélande est l'un des partenaires importants de l'Indonésie dans le Pacifique. Ratno Marsudi l'a dit dans sa déclaration écrite citée par Antara mardi 30 juillet, commémorant le 66e anniversaire des relations entre les deux pays. Ratno a tenu une réunion bilatérale avec le ministre néo-zélandais des Affaires étrangères, Winston Peters, dans le cadre d'une commission ministérielle conjointe JMC à Auckland mardi 30 juillet. Elle a souligné qu'un Indo-Pacifique ne peut pas être réalisé seul par un seul pays, mais nécessite la coopération et la collaboration de nombreux pays. Ratno Marsudi a également exprimé son appréciation pour le soutien constant de la Nouvelle-Zélande à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Indonésie. Au cours de la réunion, les deux ministres des Affaires étrangères ont discuté d'un certain nombre de coopérations bilatérales, y compris les contacts entre les peuples avec la finalisation du protocole d'amendement de l'accord sur l'éducation qui était prêt à être signé, ainsi que la discussion de l'accord sur le visa vacances-travail. Le chef de l'Agence de surveillance et de contrôle de la qualité des produits marins et de la pêche, ministère des Affaires maritimes et de la pêche, Ishartini, a déclaré que les produits de la pêche sont exportés vers 118 pays. Lors de la conférence de presse du premier semestre du ministère des Affaires maritimes et de la pêche, à Jakarta mardi, Ishartini a expliqué que le ministère des Affaires maritimes avait réussi à maintenir la tendance à l'acceptation des produits de la pêche sur le marché d'exportation. Au cours du premier semestre 2024, les produits de la pêche indonésiens ont atteint 118 des 195 pays du monde. Il a indiqué que ce nombre connaît une tendance à la hausse par rapport à la même période en 2023, soit 102 pays. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche a noté plusieurs pays de destination des exportations en 2024. Parmi les 118 qui ont réussi à devenir des destinations d'exportation figurent la Corée, l'Australie, le Japon, la Chine, Taïwan, Hong Kong, le Vietnam, la Thaïlande, la Malaisie, Singapour, l'Arabie Saoudite, l'Italie, la Belgique, la France, l'Espagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et les États-Unis. PLN Energy Primer Indonesia SAEP prévoit qu'elle sera en mesure de fournir 300 tonnes de biomasse par an à partir de la plantation totale de 150 000 arbres à biomasse à Gunung Kidul dans la région spéciale de Yogyakarta jusqu'à la fin de 2024. Mamit, secrétaire général de PLN EPI, Setiawan, dans sa déclaration citée par Antara mardi 30 juillet, a expliqué que toutes les centrales à biomasse seront transformées en biomasse qui sera utilisée comme énergie de substitution du charbon co-combustion au PLTU. Mamit a expliqué que PLN EPI est une sous-holding du groupe PLN depuis début 2023, gérant le programme RSE des villages économes en énergie dans les sous-districts de Gombang et Karangasem, Gunung Kidul. PLN EPI a désigné Gunung Kidul comme site initial pour démarrer le projet pilote Energy Power Village. Ce programme n'est pas seulement la première étape de PLN EPI pour contribuer à préserver l'environnement en accélérant la réalisation de l'objectif zéro émission ou net zéro émission NGE d'ici 2060, mais aussi comme la réponse de l'entreprise à la pénurie d'aliments pour animaux dans les deux sous-districts. Le ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie veille à ce que la condition d'un certain nombre de citoyens indonésiens au Liban soit sûre au milieu d'escalade du conflit entre Israël et le groupe Hezbollah. Directeur de la protection des citoyens indonésiens et des personnes morales indonésiennes au ministère des Affaires étrangères, Yudha Nugraha, a déclaré mardi dans un court message que la communication continuait d'être maintenue pour surveiller la condition des citoyens indonésiens. Selon Yudha, ils sont en bon état, calme et en sécurité. D'après les données autodéclarées de l'ambassade d'Indonésie, à Beyrouth, 203 citoyens indonésiens vivent au Liban et environ 1232 membres de l'armée nationale indonésienne TNI servent dans la FINUL. Les citoyens indonésiens sont invités à redoubler de vigilance et à envisager de quitter le territoire libanais, étant donné que les vols commerciaux sont toujours opérationnels. Il est conseillé aux citoyens indonésiens résidant au Sud-Liban de se réfugier temporairement dans le refuge de l'ambassade d'Indonésie à Beyrouth. Il y a 14 citoyens indonésiens vivant dans la région du Sud-Liban et ils ont décidé de rester dans leurs maisons respectives car ils estiment que la situation est encore relativement sûre. Bon chargé de tard, c'est tout, les nouvelles d'aujourd'hui.
Oh,
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le commentaire d'aujourd'hui intitulé « Gouvernement interdit la vente de cigarettes au détail » avec Maudrey. Ce jeudi tard, le président Joko Widodo a officiellement signé le règlement gouvernemental numéro 28 de 2024 concernant la santé de la République d'Indonésie. La ministre de la Santé, Budi Gunadisadikin, a déclaré que cette réglementation constitue une base commune pour réformer et développer le système de santé dans les zones reculées. L'un des articles qui a retenu l'attention des médias est l'interdiction de vendre des cigarettes au détail par bâton. Cet article réglemente également le tabac et les cigarettes électroniques, interdisant entre autres la vente de cigarettes au moins de réglementer et l'interdiction de placer des produits du tabac et des cigarettes électroniques aux entrées et sorties des espaces publics ou dans les lieux fréquemment visités. Il est également interdit de vendre des cigarettes dans un rayon de 200 mètres des unités pédagogiques et des aires de jeu pour enfants. Presque tout le monde connaît les dangers de la cigarette et du tabac pour la santé. Cette réglementation gouvernementale vise à prévenir les impacts négatifs sur la société. Le fait que les médias indonésiens aient souligné l'article concernant l'interdiction des cigarettes au détail n'est certainement pas sans raison. Ce qui est clair, c'est que la vente au détail de cigarettes rend l'accès très facile, surtout pour ceux qui ont peu d'argent, y compris les mineurs. Inquiétude concernant la prévalence croissante des fumeurs actifs en Indonésie pourrait également être une autre raison, citant healthynegriku.kemkes.go.id. Les données de l'enquête indonésienne sur la santé de 2023 menée par le ministère de la Santé montrent que le nombre de fumeurs actifs est estimé à 70 millions de personnes, dont 7,4% sont âgées de 10 à 18 ans. Bien entendu, une supervision et une application stricte de toutes les parties sont attendues pour mettre en œuvre cette règle. Ce qui mérite une grande attention, c'est la vente de cigarettes dans des petits stands que l'on trouve partout en Indonésie, même à proximité des écoles ou d'autres établissements d'enseignement. Parler de l'interdiction de fumer est toujours au centre de l'attention parce que cela est lié à la santé, mais d'un autre côté, cela est également lié à la durabilité économique des habitants dont les moyens de subsistance dépendent de la cigarette. Comme ceux qui travaillent dans l'industrie de la cigarette ou vendent des cigarettes, sans parler des revenus relativement importants de l'État provenant des accises sur le tabac. Cependant, comme le disent souvent les experts de la santé, les coûts encourus pour traiter les maladies dues aux effets de la cigarette et du tabac sont bien supérieurs aux avantages. On espère que cette réglementation réduira le nombre de fumeurs actifs. En Indonésie, en particulier les enfants, la santé des enfants est très importante pour l'Indonésie parce qu'on s'attend à ce qu'ils soient ceux qui amèneront l'Indonésie à réaliser une Indonésie dorée, une Indonésie avancée. Bonjour, je vais tard, c'est tout. Le commentaire.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 31 juillet 1963, signature de l'accord de Mani. L'accord de Mani est un accord issu d'une initiative du président philippin Diosdado Macapagal qui a été signé par la Fédération de Malaisie, République d'Indonésie et la République des Philippines le 31 juillet 1963. Cet accord a été conclu à la suite du chaos autour du statut de Kalimantan du Nord après la Seconde Guerre mondiale entre l'Indonésie et la Malaisie. Les trois pays, se référant à la décision de l'ONU, ont convenu de donner aux habitants du Sabah ou du nord de Bornéo et du Sarawak la possibilité par le biais de l'élection libre et sans contrainte, de déterminer leur propre statut de citoyenneté. Passons maintenant à l'événement du 31 juillet 2007. La journée mondiale des gardes forestiers a été célébrée pour la première fois. La journée mondiale des gardes forestiers ou journée mondiale des rangers commémore les rangers morts ou blessés lorsqu'ils accomplissaient d'importantes tâches visant à protéger les trésors naturels et culturels du monde. La journée mondiale des rangers est célébrée tous les 31 juillet et est célébrée par les associations membres de la Fédération internationale des rangers, IRF, The Thin Green Line Foundation, des organisations, des écoles et des individus qui soutiennent le travail des rangers et de l'IRF dans le monde entier. La journée mondiale des rangers a été célébrée pour la première fois en 2007 à l'occasion du 15e anniversaire de la fondation de l'IRF. Nous terminons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 31 juillet, la journée mondiale de la reconnaissance des sauveteurs. La journée internationale d'appréciation des sauveteurs est célébrée chaque année le 31 juillet. Une organisation axée sur la sécurité de l'eau et la gestion des risques appelée ELI and Associates et l'initiateur. Cette communication vise à fournir l'appréciation aux sauveteurs et en même temps à sensibiliser au rôle important des gardes-corps dans le sauvetage des personnes qui se noient. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Senyum lagi, amboi nona manis sekali. Hey dia tengok kita, hey dia jeling mata. Aduh mas senyum lagi, amboi nona manis sekali. Dia mengernyit, amboi ma aku dicubit. Siapa dia, oh putri remaja. Hey dia malu-malu, di balik selendang yang biru. Hey dia senyum padaku, itulah gadis impianku.
Chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, voici mon Indonésie et on pourra titre
Brang prépare la stratégie de développement économique de l'Indonésie à travers la CIED 2024. L'Agence nationale de recherche et d'innovation Brang, en collaboration avec l'Institut de la Banque asiatique de développement, ADBI, organise la conférence annuelle sur le développement économique indonésien ou ACIED 2024, ayant pour thème échapper au piège du revenu intermédiaire et atteindre l'Indonésie dorée en 2045, voies et options politiques. La conférence s'est concentrée sur la stratégie de développement économique de l'Indonésie pour devenir un pays à revenu élevé en 2045. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'Agence nationale de recherche et d'innovation, Brang Larsanatriandoko, dans sa déclaration à Jakarta mardi 30 juillet. Larsan a déclaré que tous les chercheurs du Brang s'engagent à continuer de contribuer en menant des recherches susceptibles de produire des innovations dans divers domaines pour le développement de l'économie indonésienne et l'augmentation de la compétitivité de l'Indonésie au niveau international. Selon Larsan, l'Indonésie a l'ambition de devenir un pays à revenu élevé en 2045. Atteindre cet objectif nécessite des efforts collectifs, des politiques innovantes et un engagement ferme en faveur d'une croissance économique durable et inclusive. Pendant ce temps, le chef du Centre de recherche sur les coopératives, les entreprises et l'économie populaire de Brang, qui est également président du comité d'organisation de la IC, c'est-à-dire de la CIED 2024, Irwanda Wisnu Wardana a déclaré que cette conférence avait invité des responsables de niveau ministériel et diverses autres parties prenantes telles que des universités, des dirigeants d'entreprises, des ONG et des médias en grand nombre, plus de 100 intervenants et participants venus du pays et de l'étranger. Selon Irwanda, la conférence de cette année est très importante. Avec une approche multipartite, Brang encourage des discussions approfondies, le partage de connaissances et la transmission des meilleures pratiques pour la préparation des recommandations politiques. On espère que les politiques qui en résulteront pourront être mises en œuvre par le nouveau gouvernement, soit en an, 5 ans ou les 20 prochaines années. Ainsi, l'Indonésie est toujours sur la bonne voie pour réaliser la vision d'Asta Cita et devenir un pays à revenu élevé avant 100 ans dans le pendant. La conférence annuelle sur le développement économique indonésien ACIED 2024, qui a lieu les 30 et 31 juillet 2024, se compose de tables rondes et d'ateliers politiques comprenant 4 sessions. C'est Ritok, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Oh,
Chers auditeurs, ce que j'ai mentionné précédemment, voici l'entretien avec l'ambassadeur de la Suisse en Indonésie, Son Excellence Monsieur Olivier Zender. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditeurs, chers téléspectatrices, téléspectateurs de la Voix de l'Indonésie, de la Radio République Indonésia. Cette fois, nous avons l'ambassadeur de Suisse, Son Excellence Monsieur Olivier Zender, et dans le programme de l'entretien spécial. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Monsieur, premièrement, nous vous souhaitons une bonne fête nationale cette année, le 1er août. Comment interprétez-vous cette fête nationale en tant que citoyen suisse et en tant qu'ambassadeur?
Écoutez, tout d'abord, j'aimerais vous remercier de m'accueillir dans votre programme. Et j'aimerais juste rappeler qu'en Suisse, la langue majoritairement parlée est l'allemand. Et qu'après, pratiquement 70%, 70% en français, 70%, et 20%, un peu moins de 20% en le français, et après 10%, en italien, et il y a une minorité qui parle la quatrième langue nationale, qui est le romanche. Donc, merci de m'accueillir à votre programme. Le 1er août, oui, le 1er août est la date de notre fête nationale. C'est important. D'abord, on fête la signature de notre pacte fédéral, qui a été donc signé en 1291, donc il y a bien longtemps. Et c'est un pacte entre trois cantons, Uri, Schwyz et Unterwald, qui est un pacte d'entraide et qui vise à contrôler l'axe nord-sud dans les Alpes à l'époque. Et c'était un pacte qui était tourné contre l'Empire Habsbourg. Ça, c'est l'aspect historique auquel nous nous référons. Mais comme ambassadeur ou comme Suisse, comme citoyen suisse, le 1er août est un moment important pour réfléchir aux valeurs qui font les particularités de notre pays, la cohésion, la démocratie, la promotion de la paix, la neutralité et la solidarité nécessaire. La Suisse, comme vous le savez, est un pays qui est composé de différentes communautés historiques, religieuses, culturelles, mais qui a décidé de vivre ensemble, comme on dit, une coalition, une nation de la volonté. Un peu comme vous, en Indonésie, vous avez l'unité dans la diversité. Nous avons aussi notre unité dans la diversité. Solidarité est évidemment importante, parce que nous aussi, comme vous, votre pays, avons connu des catastrophes naturelles récemment, qui se sont vraiment importantes pour nous. Qui ont conduit à des décès de citoyens, malheureusement. Et nous devons donc aussi réfléchir à ces éléments de solidarité.
D'accord, de solidarité. Oui. Et monsieur l'ambassadeur, comment décririez-vous les réalisations de la Suisse cette année? Et comment cette réussite peut être transmise à l'Indonésie en tant que pays ami?
Alors nous avons, comme chaque pays, connu des défis majeurs. On peut parler de notamment de la pandémie. Au final, on s'en est assez bien sorti. Ça a été bien, bien géré. On a aussi connu les conséquences de la guerre en Ukraine. Donc, nous avons dû accueillir des dizaines de milliers de réfugiés ukrainiens qui ont été assez bien intégrés. Nous avons aussi une banque majeure qui a menacé de faire faillite et cet élément a été géré. Nous avons aussi également la chance d'avoir des finances solides. C'est toujours un avantage. Donc nous avons ces éléments en place, ça, c'est au niveau national. Au niveau international, nous sommes membres non permanents du Conseil de sécurité et nous promouvons la protection des civils, le respect du droit international, le respect du droit international humanitaire. Et là, j'aimerais vous rappeler que le 12 août, nous allons fêter les 75 ans, donc 75 ans, de ces quatre conventions. Donc ça, c'est un élément important. Nous avons aussi organisé le mois dernier une conférence sur la paix en Ukraine. Nous avons réuni 91 pays et 101 et en tout 101 organisations et pays. Et c'était un grand pas dans la bonne direction pour une paix en Ukraine. Ça prendra son temps. Nous sommes réalistes, mais il faut quand même faire ce que l'on peut pour amener de la stabilité dans cette région. Qu'est-ce que je peux dire à l'Indonésie? Eh bien, l'Indonésie est un pays de dialogue, où on cherche le dialogue, donc nous avons ces points en commun. Nous devons, je viens de lire récemment là, dans le Jakarta Post aussi un article où le Kemlu a réitéré l'importance que le pays accordait au respect du droit international. C'est la même chose pour nous. Donc, nous avons besoin de pays qui réitèrent l'importance du droit international. Nous avons besoin de pays, le monde, dans un monde divisé, nous avons besoin de pays qui promeuvent la construction de ponts. Voilà, il faut aller vers l'autre et l'écouter.
Donc, parlons des rôles internationaux de la Suisse. L'un des directeurs généraux du ministère indonésien des Affaires étrangères a déclaré que 2 ans après la promulgation de l'accord de partenariat économique global, CEPA, entre l'Association européenne de libre-échange, AELE, indonésienne, qui inclut la Suisse, la valeur des échanges commerciaux entre l'Indonésie et la Suisse a augmenté. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur?
Oh, je suis tout à fait d'accord. Pour être plus précis, c'est donc de 2018 à maintenant que la valeur de nos échanges ont triplé. Pour l'Indonésie, c'est très marquant. L'Indonésie exporte principalement des minerais précieux, du textile et des meubles. Nous, nos exportations sont restées stables, essentiellement, principalement dans le domaine des produits chimiques, pharmaceutiques, machines. Et puis, bien de précision, pour du précision. Nous avons donc effectivement un cadre qui a été adopté, qui s'appelle le CEPA. Alors, je vais commencer à utiliser le jargon, la terminologie en anglais, parce que je ne la connais pas. Mais un accord de libre-échange entre les pays de l'AEL et l'Indonésie. Et ceci constitue une base très solide pour développer encore nos relations économiques. Je suis certain que, en travaillant sur cet accord de libre-échange, nous améliorerons nos échanges.
Et toujours parlons maintenant de l'investissement, monsieur l'ambassadeur. Le traité bilatéral d'investissement signé en 2022 entrera-t-il en vigueur en 2024? Comment cet accord affectera-t-il la coopération entre l'Indonésie et la Suisse?
Alors, c'est encore un accord. Donc, si je prends l'accord de libre-échange, le CEPA, et l'accord de protection des investissements, ce sont des accords qui donnent des bases très solides pour développer nos échanges commerciaux ou nos investissements. Ça donne de la prévisibilité, de la sécurité juridique. Et je crois que ces éléments-là, sécurité et prévisibilité, sont essentiels pour que les acteurs privés investissent. En Suisse, nous n'avons pas de politique officielle industriel ou d'investissement, c'est au secteur privé de venir investir. Nous, ce que nous faisons en tant qu'État, c'est de nous assurer que les conditions cadres soient le plus attractives possible pour que le secteur privé vienne chez nous. Et donc, nous nous réjouissons des futurs investissements indonésiens en Suisse.
En avril dernier, la 10e réunion de la commission mixte économique et commerciale Indonésie-Suisse, JETC, s'est tenue à Berne et a discuté des questions de coopération économique et de développement. Et quelle est la suite de la rencontre et son impact sur les deux pays, monsieur?
Alors, tout d'abord, c'est un succès. Et c'est un succès parce que cette discussion a eu lieu entre les États, donc entre les ministères respectifs, en présence de l'industrie indonésienne ou de représentants de l'industrie indonésienne et de l'industrie suisse. Cette rencontre a eu lieu après une rencontre entre le CADIN et Économie Suisse. Donc voilà, Ça, c'est la première chose. Et donc, c'est un succès dans ce sens-là. C'est aussi un succès parce que nous avons parlé des instruments qui sont là, donc le fameux CEPA. Et comment est-ce qu'on va améliorer la mise en œuvre de cet accord? Et donc, ça sert à rien. Signer un papier, ce n'est pas suffisant. Il faut que les entreprises connaissent cet instrument et en fassent usage. Et c'est là où nous poussons avec Cadin, avec Économie Suisse, pour diffuser la connaissance de cet accord et pour que les entreprises en fassent usage, qu'elles soient suisses ou qu'elles soient indonésiennes. Après, l'autre élément qui a été abordé, c'est la candidature indonésienne à l'OCDE, que nous saluons. Nous sommes évidemment très intéressés à ce que l'économie indonésienne se modernise, et c'est un bon chemin pour se moderniser, et nous pourrons évidemment assister, soutenir l'Indonésie sur ce chemin en fonction des besoins qu'identifie l'Indonésie. L'autre élément, c'est la coopération économique. Donc, vous savez peut-être que nous travaillons beaucoup dans ce qu'on appelle l'éducation dans le domaine de l'apprentissage. Donc, ce n'est pas l'éducation à haut niveau, c'est l'apprentissage, vocational training en anglais. Et nous travaillons avec les écoles polytechniques pour former des jeunes Indonésiens et qu'ils obtiennent les qualités, les compétences pour pouvoir travailler dans différents secteurs, que ce soit l'énergie renouvelable, la mécanique, les meubles et ainsi de suite. Nous avons aussi parlé de green transition, voilà, comment on dit ça, de transition et
Transition.
vision verte, voilà.
Vert.
Ça, c'est des domaines que nous pourrions examiner dans l'avenir. Transition verte, par exemple.
Merci. Monsieur l'ambassadeur, vous avez rencontré le président élu de l'Indonésie, Monsieur Prabowo Subianto, qui assumera la présidence en octobre prochain. Comment voyez-vous les opportunités de collaboration accrues avec lui?
Bon, tout d'abord, c'était un immense privilège pour moi de présenter, de transmettre la lettre de félicitations de notre présidente, Madame Amherd, au président élu Prabowo. À l'occasion de cet échange, le président élu Prabowo a réitéré l'engagement et sa vision de renforcer l'Indonésie et d'avoir une Indonésie économiquement et sur le plan durable forte. Et pour nous, ça nous intéresse. Ça nous intéresse énormément. Nous avons beaucoup d'entreprises qui suivent ça de manière très proche, de manière assez intense, et elles peuvent fournir du know-how, du savoir que l'Indonésie, dont l'Indonésie aurait besoin.
Monsieur, peut-être c'est la dernière question.
Oui.
Vous êtes venu à l'IKN et il y a une citation qui a été beaucoup écrite par les médias à l'époque. Voir, c'est croire.
Oui.
Comment voyez-vous l'IKN et quelles sont les opportunités pour les investissements suisses dans l'IKN?
Très bien. Non, effectivement, j'étais là-bas. J'étais là il y a une année, il y a plus d'une année. J'ai été impressionné. Juste pour rappel, mon premier poste en tant que diplomate était à Brasilia, au Brésil, aussi une ville, une capitale créée, une ville très agréable, mais c'est une ville qu'il a fallu du temps pour animer. Donc, et là, ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est le fait que je trouvais extrêmement intéressant à Brasilia, et je me réjouis de le voir à Icaen, c'est comment un pays se projette dans l'avenir. Qu'est-ce qu'il voit? Comment est-ce qu'il va développer? Quelles sont les infrastructures qu'il va mettre en œuvre? Donc, je suis tout à fait conscient que c'est un défi, que ce n'est pas facile de créer un projet de cette taille-là. C'est difficile partout. Mais je suis très confiant et je suis certain que nos entreprises ont du savoir-faire qu'elles pourront partager pour développer cette ville. Et je me réjouis d'ailleurs d'assister à son inauguration le 17 août prochain.
Ok, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Chers auditeurs, je crois que c'est tout notre temps dans le programme de l'entretien dirigé avec l'ambassadeur suisse, son Excellence, monsieur Olivier Zender. Merci beaucoup, à la
Merci, au
prochaine
revoir.
fois.
Bientôt, au revoir. Plaisir. Voilà, très bien.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncong, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La Voix de l'Indonésie au monde. Cerita avant de terminer notre programme, voici le magazine musical.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson d'Aceh intitulée « Di Baba Pinto ». Cerita, la chanson « Di Baba Pinto » a été composée par Baba Ubit. « Di Baba Pinto » signifie « devant la porte ». Les paroles racontent l'histoire d'une femme attendent son mari à la porte. La femme espère que son mari reviendra rapidement à la maison. La chanson Di Baba Pinto était également la bande originale du film Chutnya Din en 1988. Dans ce film, tu tiens Dean attend que son mari Teku Ibrahim rentre à la maison pour combattre les envahisseurs semblables à la chanson d'Ibaba Pinto. Bon, cher Jotard, voici la chanson d'Ache intitulée d'Ibaba Pinto, chantée par Lisa Aulia. Bonne écoute.
Dibabah pintu,
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.